ce soir, pourquoi sommes-nous venus? Je sais qu'il y en a qui sont venus pour prier, parce que vous avez le fardeau des âmes. Ça indique certainement que vous êtes prêts, parce que vous voulez que les autres soient sauvés. Peut-être que vous êtes venus parce que vous avez besoin d'entendre la prédication, vous avez besoin d'entendre ce que Dieu a à vous dire. Dieu voit si vous n'êtes pas prêts. Dieu voit si vous êtes comme ces vierges folles, ou comme ce chrétien qui avait reçu un talent et qui était paresseux. Moi, je vous avoue que ça me préoccupe énormément de voir la quantité de chrétiens qui sont tombés dans cet aveuglement, qui ont des talents et qui les ont tous enfouis. C'est quelque chose de terrible. La paresse, c'est un péché. C'est, pour beaucoup de gens, la paresse, qu'est-ce que c'est la paresse en comparaison de l'adultère? C'est quoi? À choisir, qu'est-ce que vous préférez? La paresse ou l'adultère? Aucun, oui. Mais franchement... Mais la paresse, vous avez vu, il faut le lire quand même. Dans Matthieu 25, on est quand même perplexe. C'est Jésus qui parle, c'est celui qui a donné son sang sur le bois de la croix. C'est l'apôtre, c'est le grand apôtre, le grand souverain sacrificateur, plein d'amour. Et il parle des chrétiens qui ne sont pas prêts. Et je vous avoue que je m'inquiète beaucoup, même pour les chrétiens de l'Assemblée. Beaucoup de chrétiens qui ont reçu des talents et qui sont là... tellement accaparé par le monde, accaparé par le travail, accaparé par la maison, accaparé par la construction, accaparé par la voiture, accaparé par la mode, accaparé par le monde, et ils ne se rendent plus compte qu'ils ne font plus rien pour le Seigneur. Ils ont enfoui le talent, et le Seigneur est catégorique. C'est Jésus qui parle dans Matthieu 25, cette parabole des talents. C'est des serviteurs, regardez. Au verset 14, il lancera. Cette expression, moi, elle m'a beaucoup fait réfléchir. C'est une prophétie. C'est comme ça que ça se passera. C'est comme ça que ça se passe. Il lancera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ce sont des chrétiens qui ont reçu un talent. Quand vous vous êtes convertis, Dieu vous a donné un talent, ne serait-ce que votre voix, pour pouvoir l'élever vers Dieu et pour pouvoir supplier le Seigneur pour le salut des âmes. La voix, c'est un talent. Moi, je vous le dis devant Dieu, avoir la possibilité de parler, c'est une grâce. Avoir la possibilité d'exprimer son amour pour Dieu, c'est une grâce. Et si vous ne dites, oh, moi, je ne prie pas, je n'ai pas le temps, ou je prie pour moi. Vous êtes en train d'enterrer le talent que Dieu vous a donné. Et regardez ce serviteur qui s'est autorisé à faire ce qu'il voulait. Parce que le problème, il est là. C'est que les chrétiens sont arrivés à un stade de rébellion où ils ne se rendent même plus compte qu'ils font leur volonté à la place de la volonté du Seigneur. Et cet homme a trouvé des excuses, bien sûr, verset 24. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. On a l'impression qu'il a une grande foi, le gars. On a l'impression. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Bien sûr, ce n'était pas le sien, c'était celui. Hein. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est Jésus qui parle, et c'est pas fini. Et le serviteur, inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ouais, et il faut dire... Et il faut dire Amen, parce que c'est la vérité, ça se passera comme ça. Alors je ne parle pas de moments de fatigue où on ne peut pas peut-être faire ce qu'on voudrait faire, ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver de passer une semaine difficile et de ne pas pouvoir faire ce qu'on devrait faire? Est-ce que ça peut arriver? Mais bien sûr, ça peut arriver. Tiens, aujourd'hui, j'ai pas pu faire ça. J'aurais, tiens, aller visiter Madame Untel. Ah, je suis fatigué, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec un problème ponctuel de fatigue, de difficulté, de maladie, où on ne peut pas faire valoir le talent. Ne tombez pas dans l'exagération. Mais il y a des croyants qui ont... véritablement fait ce qui est écrit dans cette parabole, ils l'ont enterré. Vous savez, quand vous enterrez quelque chose, c'est que vous ne voulez plus vous le voir. Et si vous avez enterré le talent, ou si vous n'avez pas pris conscience que vous deviez faire valoir un talent, moi je vous le dis de la part de Dieu, vous n'êtes pas prêt. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi, j'ai pas de révélation. Je vous le dis. Vous devez absolument, si vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, car je répète que les pleurs et les grincements de dents, ce n'est pas pour les païens. Les pleurs et les grincements de dents, c'est pour tous les chrétiens qui auront été légers, qui n'auront pas attendu le Seigneur comme Dieu voulait qu'ils l'attendent. Et moi, vous comprenez bien que ça me préoccupe. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu dit que les pasteurs, ils veillent sur les âmes dont ils devront rendre compte. Et ce n'est pas, c'est pas un plaisir à dire ces choses, mais il faut les dire. Et il faut surtout, mes frères et sœurs, vous qui êtes venus ce soir, que vous puissiez prier pour moi, pour que dimanche matin, le Seigneur puisse m'inspirer par rapport à un message qui va certainement être orienté vers la colère divine. Je ne sais pas si les chrétiens sont conscients de ce qui va arriver. C'est écrit, Jésus l'a dit, je vous ai tout annoncé à l'avance. Que quelqu'un n'ait pas le toupet de dire, mais Seigneur, il faudrait que le Seigneur nous le montre. Écoutez, Jésus a dit, je vous ai tout annoncé à l'avance. Et mes frères et sœurs, c'est des temps terribles qui viennent sur la terre. Ces temps terribles vont être focalisés sur par rapport à l'apostasie. C'est l'apostasie qui détermine véritablement l'enlèvement de l'Église. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi d'une manière universelle. Que dans les églises du monde entier, on ressemble de plus en plus au monde, on est d'accord pour l'œcuménisme, la religion mondiale. Moi, j'ai lu des articles dernièrement dans des journaux chrétiens, à faire frémir vraiment. Mais mes frères et sœurs, il y aura une église qui sera victorieuse. C'est l'église qui s'appliquera à justement faire valoir les talents qu'elle aura reçus de la part du Seigneur. Qu'avez-vous fait des talents que vous avez reçus ? Vous allez me dire, moi j'ai pas grand-chose. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu ne vous demandera pas, Dieu ne vous jugera pas si vous n'aviez pas 50 talents. Il ne vous en demandera pas 50. Mais celui que vous avez, le faites-vous valoir ? Ou est-ce que vous dites, ah mais moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais rien faire ? Non. Ne cherchez pas des excuses, la parole du Seigneur, elle est terrible, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Quand on voit vraiment, je vais préparer ces études, parce que je dois le faire, quand on voit vraiment, après l'enlèvement de l'Église, quand l'Esprit de Dieu sera ôté de la terre, quand il n'y aura plus le sel de la terre, vous avez déjà vu un aliment, quand il n'est pas salé, à quelle vitesse il se corrompt ? Est-ce que vous avez vu ? À quelle vitesse il pourrit ? Quand il n'y aura plus la lumière, parce que l'Église est la lumière, même si des fois elle est bien faible, c'est quand même la lumière du monde. Et quand le sel de la terre sera retiré, quand la lumière du monde sera retirée, quand l'Esprit de Dieu sera retiré, il va y avoir un déferlement de ténèbres, de puissances sataniques, le puits de l'abîme dont il nous est parlé dans l'Apocalypse va s'ouvrir. Il y a des choses terribles. La violence qu'on voit aujourd'hui, c'est des bricoles. À côté de ce qui va arriver lorsque l'Église va être enlevée. Elle ouvrira la colère de l'agneau. Et ne subsisteront, comme c'est posé dans l'Apocalypse, que ceux qui s'appliqueront à être prêts pour le retour du Maître. Ce sont des choses solennelles. Le Seigneur Jésus est extrêmement sévère par rapport à ces choses-là. Voilà, êtes-vous paresseux ? Êtes-vous inutile dans l'œuvre de Dieu ? Parce que vous allez me dire, voilà, mais là on est dans les œuvres. Mais non, on n'est pas dans les œuvres. On est dans la communion avec Dieu. Parce qu'il est impossible que quelqu'un qui soit en communion avec Dieu ne puisse pas faire quelque chose pour le Seigneur. Vous avez vu ce qu'il dit ? Méchant, serviteur, vous l'avez vu verset 26 ? Serviteur, méchant et paresseux. Il était paresseux en vérité parce qu'il était méchant. Et la méchanceté dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a plus de communion avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Est-ce que vous peaufinez votre communion avec Dieu? Est-ce que vous avez besoin de votre communion avec Dieu? Ou est-ce que vous êtes capable encore de dire, après tout ce que vous avez entendu, « Ah, moi, je n'ai pas le temps de prier. Moi, je n'ai pas le temps de lire la Bible. » Vous croyez que devant Dieu, ça tient debout, ça? Est-ce que franchement, on peut parler d'aveuglement? Oui. Quand quelqu'un est capable de dire, « Mais moi, je n'ai pas le temps de prier. Moi, je bosse. » Mais tout le monde travaille. J'ai même vu un retraité qui me disait dernièrement, parce qu'il m'avait dit vivement que je suis à la retraite, j'aurai le temps de lire ma Bible et de prier. Et quand il a pris la retraite, je lui ai posé la question. Alors, j'ai encore moins de temps. Et moi, ça ne m'a pas fait rire, moi. Il a trouvé comme prétexte qu'il avait plus de travail, voyez, à la retraite que quand il était en activité. Ça ne se tient pas debout. C'est bien la preuve qu'il ne veut pas. Quand on veut quelque chose, vous mangez des fois, vous n'avez pas le temps de manger des fois. Est-ce que ça vous arrive de pas manger à midi? Est-ce que ça vous arrive à l'heure de midi, vous êtes dans un embouteillage? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous ne mangez pas une heure et demie quand vous arrivez à la maison? Allez, 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 répondez, je veux tout savoir. Est-ce que vous ne mangez pas une heure et demie? Eh bien voilà, pourquoi? Mais parce que le corps c'est important, l'âme c'est pas important, le corps c'est terrestre, l'âme c'est qu'éternel. Est-ce qu'il faut le dire comme ça? La paresse, elle est le fruit de ce qui n'a pas de communion avec le Seigneur. Parce que quand quelqu'un il est en communion avec Dieu, est-ce qu'il peut être paresseux? Moi je ne crois pas que c'est possible. Quelqu'un qui aime Dieu, qui est en communion avec Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, Jésus l'a dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Il aime pas les, il garde pas les commandements parce qu'il faut garder les commandements, mais parce qu'il aime Dieu, il ne peut pas faire autrement que de garder les commandements du Seigneur. C'est un plaisir, c'est comme quand on est amoureux. Quand on est amoureux, on est prêt à faire n'importe quoi pour la personne qu'on aime. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Il y a des jeunes qui sont amoureux? Levez-vous ceux qui sont amoureux en ce moment-là. Hein, si votre fiancée, elle vous disait, hey, les garçons, ah, si elle vous disait, si elle vous appelait, imaginez, elle habite à Tournefeuille et vous habitez à Balma, elle vous appellerait, oh, j'aimerais que tu m'amènes une glace au chocolat à 3h du matin. Mais vous allez vous lever, vous allez la trouver, la glace, le chocolat. Ouais. J'exagère un peu, mais est-ce qu'on est, quand on est amoureux, est-ce qu'on n'est pas prêt à faire certaines choses? Mes frères et sœurs, nous vivons des temps très difficiles. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Il revient une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Les vierges folles, elles étaient folles parce qu'elles n'avaient pas de réserve. Et pourtant, c'est vraiment l'image de croyants qui attendent le retour du Maître. C'est pour ça qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'ils sont prêts. Ils s'imaginent qu'ils sont prêts parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Est-ce que c'est écrit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Mais ça, c'est une partie de la phrase. On va la lire en entier, la phrase. Et vous allez voir que ce n'est pas ça qu'il dit. Et voyez, on a là, dans cet évangile, dans ce qui n'est pas vrai. Regardez, c'est dans 1 Jean, d'ailleurs, dans la première épître de Jean, c'est toute une épître sur la communion avec Dieu. Pour comprendre ce verset, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, à la limite, il faudrait lire toute l'épître et dire, voilà, à cause de la communion avec Dieu, à cause de cette grande communion avec Dieu, oui, eh bien le sang de Jésus me purifie. Regardez, on va lire qu'un verset. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mais, si nous marchons dans la lumière, vous avez vu comment ça commence? C'est-à-dire, si nous obéissons. Quelqu'un qui marche dans la lumière, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu, qui vit dans la lumière du Seigneur, il est éclairé par sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Si nous marchons dans la lumière, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu, qui obéit à Dieu, qui vit dans la pleine lumière de sa parole. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et, donc la conséquence de quelqu'un qui marche dans la lumière et qui marche dans la communion avec Dieu, il est avec Jésus, il marche avec Jésus, il aime le Seigneur, le sang de Jésus le purifie de tout péché, parce qu'il peut commettre des péchés, mais ce sont des péchés involontaires. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, il est certain que le chrétien, il est pardonné de tous les péchés, parce que dans la journée, oh, il aura peut-être une mauvaise pensée, mais Dieu le pardonne, oui, le sang de Jésus purifie de tout péché. Les chrétiens qui marchent dans la communion avec Dieu, qui marchent à la lumière de sa parole, je vous dis, lisez tout le contexte et vous verrez que oui, ce chrétien-là, il est purifié, il est pardonné parce qu'il pêche involontairement. Mais celui qui pêche volontairement, est-ce que vous connaissez un texte dans la Bible qui parle des chrétiens qui pêchent volontairement? Et ce texte, on l'utilise pour les gens qui pêchent volontairement. Ah, mais j'ai fait ceci, j'ai menti volontairement. J'ai volontairement menti, j'ai volontairement fait ceci, je l'ai fait volontairement. Mais bon, écoute, le sang de Jésus me purifie de tout péché. On va lire ce qui se passe pour ceux qui pêchent volontairement. D'accord? C'est dans Hébreux, chapitre 10. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on vient de parler des péchés involontaires. Alléluia, heureusement que le sang de Jésus nous purifie. Hein. Mais Hébreux, chapitre 10, il est parlé au verset 26 de ceux qui pêchent volontairement. Et là, croyez-moi, c'est ça la parole de Dieu. comment j'attends Dieu dans une conduite et une piété sainte. Voyez, Hébreux chapitre 10, verset 26, c'est terrible ce qu'on va lire. C'est terrible. Car si nous péchons volontairement, donc il parle aux chrétiens, là, c'est chrétien, il ne parle pas aux païens. Hein. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? C'est une question. Vous l'avez sous forme de question dans votre Bible? Est-ce que ça termine par un point d'interrogation? Après la grâce, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un point d'interrogation? C'est une question. Et vous savez, j'aime dire que si Dieu pose des questions, c'est pour que nous y répondions. Oui, mes frères et sœurs, il y a le péché involontaire. Ça arrive à tous les chrétiens de commettre involontairement un péché. Oh, je me suis fait piéger. Tiens, par ci, par ça, par une pensée, par une parole, par une réaction. Oh, je pardonne, Seigneur. Oui, je peux vous dire que si vous marchez dans la lumière, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Mais comme on le voit de plus en plus, des chrétiens qui vivent, mais volontairement dans le péché. Et ils s'imaginent, parce que le dimanche, ils prennent le pain et le vin, eh bien, ils sont en communion avec Dieu, et voilà, l'affaire est réglée, je viens à l'église le dimanche, c'est merveilleux, je suis un chrétien, je connais des cantiques par cœur, je lis le feuillet du calendrier quand j'y pense, mais presque tous les jours, mes frères et sœurs, c'est pas ça attendre Dieu. Si vous péchez volontairement, vous connaîtrez le jugement de Dieu. Ou à moins que, d'une manière sérieuse et définitive, vous vous repentiez sincèrement. Parce qu'il n'y a pas d'échec fatal dans la grâce. Ça, c'est vrai, c'est vrai. On le voit dans les lettres aux Apocalypses. Dans chaque lettre où les églises vont mal, le Seigneur dit, repens-toi et je te donnerai. Mais il faut que la repentance, elle soit comment? Eh bien, elle soit vraie. Ce soit une vraie repentance. Voilà, j'ai pris l'habitude de mentir, et bien c'est terminé. Et si vraiment il m'arrivait à commettre un mensonge, mais je veux absolument le réparer, aller voir la personne. Il y a des chrétiens qui vivent dans le mensonge. Je vous disais l'autre jour, une jeune fille de l'église qui a dit à mon épouse, est-ce que c'est normal que ma maman, elle mente? Et j'ai dit, bien sûr que non. Mais ta maman, bien sûr, elle n'est pas au Seigneur. Et elle dit, si, elle vient à l'église. Elle est baptisée. Et vous voyez, mais c'est pas grave, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ces gens-là qui s'autorisent à prendre des versets bibliques pour justifier le péché volontaire sont des personnes qui connaîtront les pleurs et les grincements de dents. Il faut le dire. Il faut le dire avec beaucoup de sérieux. Je crois qu'il y a 7 textes qui parlent des pleurs et des grincements de dents. Il y a la véritable foi. Le premier texte, c'est dans Matthieu, c'est au chapitre 8, si je ne me trompe, c'est la fameuse foi du centenier à qui Jésus va dire, mais même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et il parlera des pharisiens. Ah, eux, ils la connaissaient, la parole de Dieu. Ils la connaissaient tellement bien qu'ils ont poussé pour la crucifixion de Jésus. Vous voyez comment ils connaissaient Dieu. Eh bien, Jésus va dire, c'est dans un contexte d'une véritable foi que ceux qui ont une foi de façade, une foi superficielle, on le lit dans Matthieu 8. Voilà, c'est... Il faut les prendre, tous ces textes. Vous savez, c'est ça, méditer la parole de Dieu. C'est ça, se sanctifier. Moi, vous voyez, pendant la première fois que j'ai lu ces textes, je croyais que c'était pour les païens. Quand j'avais quelques mois de conversion, les pleurs et les grincements de dents. Vous n'avez pas pensé, vous aussi, que les pleurs et les grincements de dents, c'était pour les païens? Bon, je l'ai pensé, je le dis franchement. Hein. Et puis, quand j'ai lu et j'ai relu, vous dites, mais attends, mais c'est pas pour les païens. Regardez, Matthieu 8, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? C'est qui? C'est pour qui les pleurs et les grincements de dents? Vous m'aidez pas beaucoup, hein? Mais les... Qui c'est les fils du royaume? Eh bien, c'est les chrétiens. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est dans un contexte de foi. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez une vraie foi? Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Ou est-ce que vous êtes en train de basculer dans cette espèce d'évangile mondial où on accepte tout, il faut tout tolérer, il faut de la liberté et de la tolérance, il faut accepter maintenant les homosexuels dans les églises, il faut accepter l'homosexualité, qu'on peut être chrétien et homosexuel. Moi je crois que Dieu veut sauver les homosexuels, mais il faut qu'ils se repentent. Et vous savez, on a souvent dit aux gens, et c'est vrai, mais c'est trop bien dit, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Point. Et ça laisse entendre que Dieu, bien sûr, il n'aime pas le péché, mais qu'il aime le pécheur, mais le pécheur, Dieu l'aime, mais il faut que le pécheur se repente. Jésus a dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas moi non plus, mais va et ne pêche plus. » Et on est dans un monde où on dit, mais Dieu n'a pas condamné la femme adultère, il n'a pas, vous rendez compte, il n'a pas jeté la pierre, il ne l'a pas condamné. Non, il ne l'a pas condamné. Mais il lui a demandé de ne plus pécher. Et nous sommes dans cet évangile aujourd'hui où on accepte tout, il faut tolérer tout le monde, il faut qu'on s'unisse, et on rabaisse le niveau. Et ça, ce n'est pas la foi. Les fils du royaume qui n'ont pas une véritable foi prouve qu'il n'aime pas Dieu. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, il est attaché à la parole de Dieu. Il ne va pas tordre la parole de Dieu. Il n'ajoutera rien, il ne retranchera rien. C'est ce que la Bible dit qui est important. Ce n'est pas ce qu'il pense. Le Dieu a-t-il réellement dit ? Ça, c'est de guise aujourd'hui. C'est de mise aujourd'hui. C'est comme ça que les chrétiens marchent. Oh oui, mais est-ce que Dieu a fait ? Moi, j'entends ça. De plus en plus. Oui, mais en fait, il ne faut pas être trop strict. Il ne faut pas être trop sévère. Il ne faut pas être légaliste. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est être légaliste que d'honorer toute la parole de Dieu? Est-ce que c'est d'être strict que de faire en sorte que le oui soit oui et que le non soit non? Est-ce que c'est être légaliste et méchant que de reprendre ses enfants lorsqu'ils font n'importe quoi, même dans l'église? Mes frères et sœurs, la véritable foi, c'est d'honorer toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Et si vous calculez bien pour l'enlèvement de l'église, il faut rester dans une foi saine. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah, il trouvera des gens dans les églises, ça y en aura. Des églises pleines, il y en aura. Mais est-ce qu'il trouvera la foi dans les cœurs? Mes frères et sœurs, comment attendez-vous le Seigneur? Et cette prédication, je crois réellement qu'elle sert d'introduction à dimanche. Parce que je voudrais que vous puissiez toute la semaine, dans vos moments de culte, prier pour moi, pour que Dieu ouvre les yeux de tous ceux qui sont dans ce cas de figure où leur foi n'est qu'une foi de façade, où leur piété n'est qu'une piété de façade, où véritablement leur service n'est qu'un service superficiel, parce qu'il faut pas se leurrer. Dieu attend que tous les chrétiens servent le Seigneur. Est-ce que c'est demandé dans la Bible de servir le Seigneur? Un adorateur, c'est un serviteur. Tu l'adoreras et tu le serviras. Mes frères et sœurs, je vous le dis devant Dieu. Moi, je vous le dis parce que je rendrai compte à Dieu. Je le sais. Je rendrai compte ce soir. Cette prédication, vous l'entendez, mais il y a des milliers de gens qui vont l'entendre. Des dizaines de milliers par les radios et par Internet, je le sais. Et vous qui entendrez cette prédication, vous qui vous extrayez du corps de Christ parce que vous dites, voilà, dans les églises, moi, je crois qu'il faut rester dans l'église du Seigneur et trouver sa place dans une église et trouver un endroit où on se réunit avec des chrétiens pour que le corps soit rassemblé. L'autre jour, j'étais en train de prier et j'avais cette image du psaume 133 quand il est dit que la bénédiction, elle vient, elle descend de la tête d'Aaron, vous savez, l'huile qui descend sur la tête et qui descend sur le corps. Et bien, la tête d'Aaron, ça représente le Seigneur Jésus-Christ. L'huile, elle vient du Christ, elle vient de la tête, elle vient du Seigneur et elle ne peut descendre que sur le corps. Et si les chrétiens sont éloignés du corps, ils ne peuvent pas avoir cette bénédiction. C'est pour ça que c'est important de se retrouver sous le regard du Seigneur ensemble. C'est important pour vous la vie de l'Église? Ok, oui, si vous êtes là, c'est que c'est important. Mais quand même, vous pouvez être en train de vous décourager et de dire, mais est-ce que c'est vraiment ma place? Eh bien oui, on a besoin de trouver sa place dans l'Église. L'onction, elle vient sous la tête. Si le corps il est à 10 km, il n'y a pas d'onction. Pourquoi toutes ces divisions n'ont jamais été bénies? Pourquoi? Vous savez, toutes ces églises parallèles, etc., on ne voit que de ça. Ces pasteurs qui s'en vont, qui démissionnent, qui sont exclus, qui font leur groupe, etc. Pourquoi il n'y a jamais la bénédiction? Parce qu'ils se sont retirés du corps. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut que nous restions ensemble unis, sous le regard du Seigneur, sous la tête du Seigneur Jésus-Christ. Vous la voulez, l'onction ? Vous voyez, ce sont des choses très sérieuses. Et on va terminer en priant. On va demander au Seigneur qu'il nous aide. On reviendra peut-être sur ces textes pour prendre conscience de encore où Jésus-Christ parle-t-il des pleurs et des grincements de dents. Dans quel contexte il en parle encore? Il en parle, vous savez, vous savez le gars qui est invité, la parabole du festin des noces. On en parle toujours de ceux qui s'excusent, et j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le visiter, j'ai acheté des bœufs, il faut que j'aille les essayer, etc., etc. Mais cette parabole, en vérité, elle est adressée aux chrétiens qui vont connaître les pleurs et les grincements dedans, mais c'est pour quelqu'un qui accepte l'invitation et qui n'a pas revêtu les habits de noces. C'est dans Matthieu 22, vous la connaissez. Allez, on termine avec ce texte, on ne va pas voir les 7 textes ce soir. Mais voyez, cette parabole, on l'utilise toujours pour les gens qui s'excusent, Venez à la croix, et ils ne viennent pas. Mais cette parabole, elle n'est pas pour les gens qui s'excusent. Elle est pour les chrétiens qui ont accepté l'invitation, mais qui n'ont pas accepté les conditions. Et ça, c'est une affaire sévère. Matthieu 22, verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. C'est comme ça que ça se passera devant Dieu. Personne ne pourra rien dire. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc cette parabole du festin des noces parle de ceux qui ont accepté l'invitation. Alors ça ne veut pas dire qu'à l'enlèvement de l'église, il y a des gens qui vont se retrouver au ciel et à qui Jésus va dire... Ah, ça a été enlevé? Ah, on s'est trompé, hein? Non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas ça dans le ciel. Mais ça indique qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le royaume de Dieu sur la terre, ils sont rentrés dans le corps de Christ, ils ont pris le baptême, mais ils n'ont pas rempli les conditions. Ils n'ont pas voulu se repentir, ils n'ont pas voulu se convertir. Ce matin, hier soir, en rentrant du camp, j'écoutais une prédication de M. Roux. Vous voyez, c'est vieux. Parce qu'il est décédé il y a quoi? Il y a une trentaine d'années, non, M. Roux? Non? C'est pas en 80, pardon, en 82? Bon, enfin, c'est une prédication qui a une vingtaine d'années au moins. Bon, enfin, c'est pas grave. Et il disait que beaucoup de gens, ils ne comprenaient pas, il expliquait dans sa prédication, il disait, mais beaucoup de gens viennent à l'imposition des mains, et puis ils reviennent 3 semaines après, rien n'a changé. Ils viennent à l'imposition des mains, ils donnent leur cœur au Seigneur, ils pleurent, et puis on les revoit un mois après. Ils n'ont pas avancé d'un centimètre. Pourquoi? Eh bien, c'est exactement cette affaire-là. C'est que les gens, ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils ne veulent pas la croix. Parce que pour faire la volonté de Dieu, il faut abandonner sa volonté. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et le problème de cette affaire-là, c'est tous les gens qui rentrent dans le royaume de Dieu, ils rentrent. Il a accepté l'invitation, il a compris que c'était sérieux de ne pas aller en enfer, de croire que Jésus est mort sur le bois de la croix. Mais quand le Seigneur parle des conditions, ils n'en veulent pas. Ils préfèrent l'habit de la religiosité, l'habit des bonnes œuvres, parce qu'il est plus joli, leur habit, que celui que Jésus leur propose. Mais moi je vous dis que les croyants qui entrent sans passer par la repentance et sans passer par la conversion ne sont pas sauvés. Même s'ils ont pris le baptême et même si certains font des œuvres, laissez-moi vous dire qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents pour les chrétiens qui ne veulent pas s'appliquer à remplir les conditions. Et la condition, c'est la croix. C'est pour ça, on a au camp d'ados, là, on s'est réjouis, on a vu, je ne sais pas combien d'ados venir en pleurant, demander pardon, je veux donner ma vie à Jésus, je veux donner mon cœur au Seigneur, et je ne veux pas vous donner des chiffres. Je préfère attendre que ces adolescents qui ont pleuré sur leur péché se mettent à se décider à accepter la croix. Parce que si on n'accepte pas la croix, on ne peut pas suivre Jésus-Christ. On peut être gentil comme le gars, là. Il s'est retrouvé dans la salle. Enfin, c'est sûr que l'image, elle est marrante quelque part. Mais Dieu l'a voulu pour que nous comprenions qu'on n'entre pas dans le royaume de Dieu sans passer par la repentance et la conversion. Les pleurs et les grincements de dents, moi je vous avoue que c'est une expression qu'on ne retrouve que dans la bouche de Jésus. Il n'y a que lui qui en parle. Et je crois que c'est volontaire. Parce que quand on parle de Jésus, oui, Jésus l'amour, il pardonne tout, Jésus c'est l'apôtre de l'amour et tout ce que vous voudrez. Oui, c'est vrai, il n'y a pas plus rempli d'amour que Jésus. Oui ou non? Il n'y a pas plus rempli d'amour que Jésus. Mais mes frères et sœurs, Dieu est juste et saint. Et n'entrera dans le ciel que ceux qui persévéreront dans une foi vivante, dans une profonde conversion, et ceux qui s'appliqueront à servir le Seigneur. Et je vous le répète, mes frères et sœurs, et je vous demande de prier pour dimanche, parce que moi je veux croire que Dieu veut délivrer tous ceux qui sont pris par le matérialisme, par le monde, par le, je sais pas moi, par tout ce que le monde propose. Mes frères et sœurs, Jésus va rechercher une église qui l'attend dans une conduite sainte. Amen. Seigneur Jésus, tu veux sauver tous les chrétiens de Toulouse. Tu veux que tous les chrétiens soient prêts. Si tu veux sauver les pécheurs, ce que nous comprenons, tu veux surtout que les croyants soient prêts. Seigneur, tu vois tous les fils du royaume qui ont perdu la foi. Tu vois tous les fils du royaume qui ont enterré les talents. Tous les fils du royaume qui n'ont pas accepté la robe, cette robe blanche de l'obéissance et de la sainteté. Seigneur, nous te prions pour que tous les chrétiens de cette église dans laquelle tu nous as placés soient prêts quand tu reviendras nous chercher. Tu vois nos adolescents, nos enfants, tu vois nos jeunes. Seigneur, tu vois les nouveaux qui fréquentent l'église, qu'ils passent tous par une profonde conversion, que personne n'entre comme cet homme dans cette parabole avec ses désirs ou ses convictions à lui, que tous passent par le calvaire. Oui, Seigneur, nous te prions pour tous les croyants de l'Assemblée, s'il te plaît, pour que tous viennent à toi. Tous viennent à toi et que tous soient prêts. Nous voulons voir tous les croyants de cette église prêts, Seigneur, le jour où tu reviendras nous chercher. Merci, Seigneur Jésus.